ni tant de goûter, d'écouter, de parler, qui n'a repos que mort. Il y a une race de monde qui vit derrière le monde et le suit comme un chien. Le vole pendant qu'il dort, tourne ses poches et l'or, elle va le faire au loin. Une race de chacal, invisible, faisant mal, au matin il dévale. Ni temps, ni non, ni rang, son adresse est le vent. Méchant, distant, absent. La pire race de monde, la dernière race au monde, et celle qui mène le monde. À grands coups de crayon, à grands coups de canon, de sermons et d'édits. Le paradis, mamie, était possible ici, dans chacun des pays. Elle qui l'a détruit, au nom de l'ordre aussi, mais j'en ai assez dit. La terre est à tout le monde, suis de cette race de monde.
Eh bien, nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Nous allons dire au revoir aux auditeurs et à nos invités. À Rémi Tarrier, merci Rémi. Oui. Hervé Potier, merci Hervé, merci Eugène.
Merci à vous.
Alain Écalès, merci Alain.
Et moi, je serai de nouveau là samedi, à l'émission, ah oui, à 15h30.
Ah, ben bah alors, voilà, tu ne m'avais pas dit ça avant.
C'est un abonné, mais...
Ah oui. Et puis merci Nathalie Solens à la
sans régie. Qui rien ne pourrait se faire.
Voilà.
Et puis, merci Nathalie.
Petit
merci,
rappel, Nathalie. Le 17 juin, Pascal Loquin à Publico, 145 rue Hameau. Une
chanson. Parti de loin, sur des radeaux de fortune, ils rêvent en vain. Allégés de leur thune par des vauriens, des gens sans scrupules, ils n'ont plus rien, même pas un matricule. La terre promise, loin de leur infortune, même pas une valise, tout ça pour des prunes. À tout moment, la vie peut chavirer, ils jouent leur vie, à qui perd gagne, il y en a tant. Que la vie a débarqué et on dit que la foi déplace des montagnes. Partir de loin, arriver nulle part, pour quand enfin la fin du brouillard. Le monde ne veut pas de ces gens ailleurs, d'accord, mais pas ici. Aurait-il oublié qu'en d'autres temps, certains avaient fui leur pays. Une guerre chasse l'autre, on n'en voit pas la fin, Dieu et ses apôtres, mais où sont passés les saints? De drôles d'idées qui traînent, se trompent de mission, des appels à la haine, déchaînent les passions. On peut rêver et croire enfin qu'un jour le monde va se lever et ne sera plus sourd. Je rêve du jour où le malheur tournera court. Je rêve du jour d'un autre jour. Je rêve d'un autre temps, d'un autre temps. Dites-le aux enfants.
Bonjour, donc c'est Radio Cartable maintenant, donc grand merci à toute l'équipe de Faites-nous des chansons qui nous a fait écouter Pascal Loquin, Le radeau des médusées, c'est le titre, un des titres de son dernier album. Et au programme dans Radio Cartable aujourd'hui, nous réécoutons un travail fait cette année autour du théâtre Antoine Vitez, donc avec la collaboration d'un CM2 de l'école Langevin, qui a pu faire des interviews des artistes après les spectacles. Et donc nous allons réécouter 3 interviews faites cette année. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes la classe des CM2A de l'école Paul Langevin. Nous sommes heureux de vous présenter le deuxième spectacle des petits correspondants du théâtre.
Jeudi 24 novembre 2022, nous sommes allés voir le spectacle Nathan Longtemps. C'est un spectacle acrobatique, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui font des figures avec leur corps.
Dans ce spectacle jouent 2 acrobates, Maude Bouchat et Daniello Alvino. Nathan est un petit garçon de 5 ans qui vit avec sa maman. Ce qui est drôle, c'est que Maud joue le personnage de Nathan, Daniello le personnage de la maman. Sa maman a une maladie, elle est narcoleptique. C'est-à-dire qu'elle s'endort n'importe quand et dans des endroits inappropriés.
Nathan adore être le premier. Il court tout le temps, il adore ses baskets. Un jour, sa maman ne vient pas le chercher à l'école. C'est alors que Nathan part à sa recherche.
Nous avons pu interroger les membres de la troupe au bord du plateau. À la fin du spectacle...
Je suis Hayden. La première question est pour le metteur en scène. Comment fait-on pour adapter un roman en pièce du théâtre? Et est-ce difficile?
Bonjour, je m'appelle Maude, donc je joue dans le spectacle Nathan Longtemps. Alors, pour répondre à la question... Comment fait-on pour adapter un roman en pièce de théâtre? Donc là, pour Nathan Longtemps, c'est pas le cas, c'était une commande d'écriture. Donc c'est-à-dire que l'auteur, donc celui qui a écrit le spectacle, a écrit tout de suite une pièce de théâtre. Il n'a pas écrit d'abord un roman qui a été adapté.
Mon papa, je ne l'ai jamais vu, juste en photo. Mais je sais qu'il travaille dans une boutique de sandwich aux États-Unis. Alors chaque fois que je suis triste en pensant à lui, maman me dit...
Ne t'inquiète pas, mon chéri. On garde la frite dans cette baraque. Même si c'est pas la folie, on garde la frite. Oui?
Maman travaille dans un grand magasin de jouets pour gagner des sous. C'est un peu difficile pour elle, parce qu'elle a une grande maladie.
On garde la frite. On garde la frite, oui.
La maladie du sommeil.
Quoi qu'il arrive, la frite! La frite, la frite, la frite.
Avant, maman s'endormait tout le temps.
La frite, la frite, la frite, la frite.
À n'importe quel moment. À la piscine, elle ronflait sous les douches en faisant de l'apnée. Au supermarché, elle se couchait la tête dans les citrons et elle piquait du nez.
je suis Juliane. Deuxième question, pourquoi avoir choisi de parler de la narcolepsie?
Bonjour, je suis Danilo et je joue aussi avec moi dans la pièce Nathan Longtemps. Alors, pourquoi choisir la narcolepsie? Il s'agit d'une maladie assez rare, mais d'une maladie qui existe. Et du coup, au théâtre, on a aussi les rôles souvent de sensibiliser les personnes à des réalités. Et du coup, pourquoi la narcolepsie et pas une autre maladie? Ça, on peut trouver plein de réponses. Par exemple, parce que ça peut être... C'est quand même une maladie qui donne des outils assez drôles. En fait, s'endormir, c'est quelque chose qui peut être drôle. Et du coup, on pourrait parler dans ce cas-là d'un sujet assez sensible et grave à la fois, d'une façon assez drôle.
La narcolepsie, ça dure à vie ou ça peut se guérir rapidement?
Je crois que c'est une maladie qui est bien ancrée une fois qu'elle est là, mais... qui se soigne avec des médicaments, enfin qui permet d'être combattu grâce aux médicaments, me semble-t-il.
Aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé ce qu'on voulait faire comme métier quand on sera grand. Tu sais ce que j'ai répondu?
Non, mon chéri.
Maman! Quand je serai grand, je veux faire maman!
C'est un métier très difficile.
Oui, mais au moins je pourrais bien m'occuper de toi. Et puis je resterai à la maison pour t'aider à préparer les crêpes du lundi.
Mais je suis très bien coiffée. Cache-cache. 1, 2.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Alice. Question 3. Pourquoi avoir choisi un homme pour interpréter un personnage féminin et une femme pour un personnage masculin?
Eh bien, peut-être que... moi, je pense que c'est en premier pour faire travailler l'imaginaire et s'inventer des mondes, ce qui me semble très important pour développer la pensée. Et aussi, quand on lit une histoire ou qu'on regarde un dessin animé, que par exemple, le héros est un petit garçon, les petits garçons vont plus facilement pouvoir se dire « Ah, mais c'est moi », ou se mettre à la place d'eux. Et les petites filles, peut-être un tout petit peu moins, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon. Or là, comme c'est moi qui joue un petit garçon, les petits garçons peuvent s'imaginer être Nathan parce que c'est l'histoire d'un petit garçon, mais les filles aussi parce que c'est une fille qui joue le petit garçon, et pareil pour la maman. Et donc, voilà, il me semble que c'est ça, que c'est pour ça.
Je m'appelle Estelle. Comment devient-on circassien?
Alors, en fait, aujourd'hui, on peut devenir des circassiens même si on n'est pas d'une famille de circassiens traditionnels. Et il existe plusieurs écoles de cirque, amateurs, professionnels et supérieurs. Et du coup, en fait, on peut commencer à prendre des cours comme on pourrait prendre des cours de danse plutôt que... jouer dans une équipe de foot, on commence par jeu. Et en faisant ça, en fait, on commence à s'entraîner et on commence à apprendre des choses. Et du coup, tu établis un parcours et tu commences à les suivre. Bien sûr, c'est en question de travail et des sacrifices parce que ce n'est pas évident, ni pour apprendre, ni pour s'affirmer dans le monde du travail, du cirque. Mais si on veut les faire avec de la volonté, de la passion et du travail, on peut les faire. Du coup, moi, par exemple, j'ai commencé dans une école amateur. J'ai du coup choisi à un moment d'essayer de faire du cirque ma vie et j'ai tenté des auditions dans une école professionnelle et dans une école supérieure après. Et en faisant ces parcours-là, je me suis retrouvé avec des compétences qui font que je puisse travailler en faisant de cirque.
Je me présente. Je suis Macha. Cinquième question pour Danilo. Pourquoi avoir choisi l'échelle comme agrès?
Pourquoi avoir choisi l'échelle? C'est une réponse assez personnelle déjà. Et dans le cirque, souvent, on utilise et on travaille avec des agrès. Qu'est-ce que c'est un agrès de cirque? C'est un outil, un objet avec lequel on puisse évoluer. Même un acrobat, il travaille pas forcément. Un acrobat, il travaille à corps libre, sans agrès, mais sinon, souvent, on a un agrès avec nous, que c'est un peu notre partenaire. Moi, j'ai choisi l'échelle parce que quand j'ai commencé, tout le monde autour de moi était déjà très, très, très fort avec ce qu'il faisait. Il y avait des jongleurs super forts, des personnes à la roussière très fortes, des personnes au machinois. Et du coup, j'étais un peu timide parce que là, je venais de commencer et j'avais pas les capacités des autres. Et personne faisait l'échelle. Et c'était dans un petit coin de l'école. Du coup, je pouvais me mettre dans mon petit coin et travailler devant les murs sans prendre trop l'attention et sans faire voir aux autres que j'étais pas au même niveau, quoi. Et en plus, ça m'a tout de suite pris l'échelle parce que l'objectif est assez clair. En fait, on veut monter à l'échelle de plus en plus haut. Et c'est un objectif évident devant nous. En plus, c'est un agrès, l'échelle, qui est quotidien. Tout le monde connaît et reconnaît une échelle, à différence des autres agrès qui sont un peu plus abstraits. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, voilà, mon objectif, c'était d'arriver tout là-haut sur cette échelle. Et petit à petit, j'ai réussi, quoi.
Est-ce que l'échelle, c'est une échelle que tout le monde peut utiliser ou acheter dans des magasins, ou c'est une échelle faite exprès pour le spectacle ?
Alors, on peut dire qu'on peut rester en équilibre sur toutes les échelles, mais celle-là, si nous on veut dépasser, on va dire, un certain niveau, on a besoin d'une échelle qui est faite sur mesure. Du coup, on peut bien sûr acheter dans des magasins exprès de cirque une échelle ou des échelles, mais pour faire ce que j'ai fait, par exemple, je nécessite des certaines mesures qui soient assez précises. Du coup, j'ai pris ces mesures à la maison, j'ai fait un projet tout seul et je suis allé chez un soudeur pour faire construire mon échelle à moi. Du coup, voilà, c'est pas tant des mesures qui font qu'elle reste plus en équilibre au moins un équilibre, c'est plutôt pour exemple passer au milieu, passer dans la fenêtre pour attraper à des certains niveaux les barreaux. En fait, c'est pour ça qu'on va prendre des mesures.
Ne pas compter les boutons.
Elle ne pense qu'à ne pas dormir. Elle ne veut surtout pas dormir pour ne pas m'oublier. Pic, marmotte.
Mange la faim.
L'école, 4h30.
J'arrive, Nathan.
La maladie est plus forte. Pip, marmotte.
Mon lapin.
L'école, 4h30.
J'arrive. Nathan.
Et sans ses médicaments, elle ne peut rien. Pip, marmotte.
Mon lapin.
Pip, marmotte. Pip, école. Pip, marmotte. Pip, 4h30. Pip, marmotte. Pip, carte bleue. Pip, marmotte. Pip, mouton. Pip, marmotte. Pip, ticket. Pip, marmotte. Pip, monnaie. Pip, marmotte. Pip, marmotte. Pip, marmotte. Pip.
Il y a le mal des clients qui achètent des marmottes ici.
Et pourquoi la forme du plateau et l'endroit, au lieu d'être dans les gradins, a été fait ainsi ?
Ben, très bonne question, parce que vous voyez, là, c'est un dispositif assez particulier. Ça s'appelle du bifrontal, parce que, en fait, le public est sur les deux côtés. Et déjà, ça, c'est une nouveauté, entre guillemets, et c'est quelque chose qui vous permet de regarder un spectacle d'une façon différente, parce que devant vous, vous pouvez voir les autres personnes du public, les autres enfants. Et en plus, en faisant ça, vous êtes sur la scène, qui n'est pas souvent le cas quand on va voir un spectacle, et c'est quelque chose d'assez particulier. Et ça donne aussi, en fait, le public est assez proche de la scène. Et ça donne aussi du valeur à nos agrès, à l'échelle, à l'auteur de l'échelle. Parce que si vous étiez plus loin, peut-être que ça aurait été moins impressionnant voir quelqu'un monter à l'échelle. Mais vous, que vous êtes très, 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 très proche de nous, ça prend du valeur.
Pour les décors, pourquoi avoir choisi ces motifs sur le sol et puis sur les côtés, ces parois.
Alors la scénographie que tu vois était pensée et construite par un scénographe. Et en fait, quand cette scénographe qui s'appelle Cola, il a commencé à travailler sur cette scénographie, il savait qu'on allait travailler avec des échelles. Du coup, il a pensé, il s'est dit, ah, mais vous, que l'échelle est une agrée assez linéaire, qui est fait de lignes, quoi. On pourrait reprendre cette thématique-là et donner, du coup, comme ça, une ambiance à cette scénographie qui va avec la forme de l'échelle. Et en plus, en fait, dans le spectacle, vous voyez, on passe de l'école au magasin de jouets, à la maison de Nathan, et chaque côté représente un lieu. On a l'école, on a la maison, on a les magasins de jouets, et ce qui est au milieu, en fait, c'est la route. C'est la route qui sépare ces deux endroits. Et du coup, l'effet de voir toutes ces lignes comme ça, avec des cercles et des ronds-points, ça fait penser aussi à une carte.
Questo bambino da solo al buio che sta pure piangendo senza che nessuno se lo guardi. Ma dico io, la maestra, il maestro, bidella, bidella, ma qualcuno se la guarderà questo povero ragazzo. Non è possibile che ancora ci dimentichiamo i bambini da soli al buio che piangono. Mia nonna, la buona anima, non avrebbe mai permesso una cosa del genere. E mo, indovinate un po' chi è che si dovrà guardare questo povero bambino? Io. Oh, Nathan. Bah alors, tu prends pas ton goûter?
Cette voix, c'est Paco, un animateur de l'école. Paco, il ressemble un peu à mon papa, celui que je vois sur les photos. Il me fait m'asseoir sur ses genoux et je mange le petit gâteau qu'il me donne. Tu sais, Paco, maman, elle a changé de sac ce matin. Mais moi, je préférais celui d'avant parce que les docteurs, ils disent toujours trois fois par jour. Et en plus, mourir, c'est comme dormir. Et aujourd'hui, on devait faire les courses et s'acheter des œufs. Sinon, maman, elle pourra plus se laver les cheveux et j'aurais pas de crème le lundi matin. À cause de la morve qui coule sur ma bouche, Paco ne comprend rien à ce que je dis. Mais il voit que je suis triste.
Séchez-vous-là, mon petit compagnon. Et attachez votre ceinture. Nous allons faire un tour dans l'hélicoptère.
L'hélicoptère?
Oh non. L'hélicoptère. C'est parti. Ici, capitaine Paco.
Et autre question sur votre maillot, le cygne, il représente quoi et pourquoi ces habits, pourquoi là ce genre de costume?
Alors, moi sur mon t-shirt j'ai un petit écusson avec une marmotte dessinée dessus et parce que la maman s'endort et il y a des marmottes qui font une montagne au-dessus de sa tête. Et ça, en fait, c'est l'auteur, donc celui qui a écrit le texte, qui a mis plein de petits jeux de mots dans cette pièce. Donc, il a choisi la marmotte comme animal parce qu'il y a l'expression « dormir comme une marmotte ». Et il y en a plein comme ça, des petites choses dans le spectacle. Et puis, alors, les costumes. Donc, moi, j'ai un maillot de foot avec écrit « Nathan » derrière. Et parce que c'est un petit garçon qui aime bien courir vite et le costumier s'est dit bah tiens on va lui mettre un maillot de foot et comme c'est joué par une fille on dépasse un peu juste bah c'est un petit garçon qui joue au foot mais bon c'est joué par une fille du coup on ouvre un petit peu l'imaginaire quoi.
Est-ce que c'est dur quand on a plusieurs vêtements de très vite les détacher et de ensuite très vite les rattacher?
Alors sûrement il y a des questions techniques aussi à préparer. Du coup en fait je pense bien avec quel bras je vais enlever mon t-shirt, avec quel bras je vais à prendre ma veste par exemple, mais je pourrais pas te dire que c'est dur. Pour moi c'est amusant en fait parce que ça me permet d'échanger d'une silhouette à l'autre assez rapidement.
Le directeur de l'école me voit seul et il m'emmène dans son bureau avec des horloges partout.
Dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta mère?
Maman dort dans les citrons sous la douche, dans les chaussures, sans ses médicaments. Maman dort tout le temps. Dis, est-ce Est-ce que Paco peut revenir me chercher et me déposer à la maison pour que je vérifie si maman va bien? Le directeur ne répond pas, mais il prend un gros cahier avec tous les numéros, même celui du père de Noël. Mais c'est celui de ma mère qu'il cherche.
Trouvé ! Le téléphone portable. 1, 2, 3. Personne.
Mais il ne comprend pas.
Les papiers alors. 1, 2, 3. Personne, déchet, personne.
Il ne comprend pas que c'est moi qui dois sauver ma mère.
Le père peut-être. Viendre, ça va nous coûter cher.
Alors qu'il tourne les pages, je me penche doucement vers mes baskets.
Les massachaussettes en plus.
Je serre bien fort mes lacets.
1, 2, 3. Personne, déchet, personne, déchet. Nobody at all.
Et au moment même où le directeur raccroche, je pousse la porte de son bureau et cours à toutes jambes.
Paco, il est quoi dans l'histoire? Parce que ça veut dire que dans l'histoire, on avait dit que Paco, il ressemblait un peu au père de Nathan. Et du coup, bah, c'est quoi? C'est qui pour eux dans l'histoire?
Et ben donc, Paco, c'est un animateur de l'école et il s'avère qu'il ressemble un petit peu au papa. Et je sais pas si tu te souviens, à la fin, Paco donc il vient chercher Nathan avec la maman, ils sont tous les deux dans le camion, et puis à la fin la maman elle dit que Paco a les clés de la maison, qu'il vient souvent à la maison pour jouer avec Nathan et qu'il apprend l'italien, parce que Paco est italien, il apprend l'italien à la maman. Donc à votre avis, quelle devient la relation, peut-être, entre la mère et Paco, sachant qu'à la fin, il a les clés de la maison et qu'il vient souvent à la maison. On peut imaginer que, peut-être, à la fin, Paco et la maman sont amoureux. Et surtout que la maman finit en disant que Paco lui apprend l'italien, que c'est une langue très difficile, et elle dit en italien, alors attention à mon accent, il bacio sulla bocca, qui veut dire un baiser sur la bouche. Donc, c'est un peu pour nous donner un petit indice de la relation entre Paco et la maman.
Paco, du coup, il trompe. Enfin, non. Du coup, la mère, elle trompe son mari.
En fait, on ne peut pas dire qu'elle trompe son mari. Et comme vous avez entendu, Nathan, il ne connaît pas son papa parce qu'il n'est pas là. Pour des questions qu'on n'est pas obligé de connaître. Du coup, en fait, sa maman, elle n'est pas forcément encore mariée avec le papa de Nathan. Le papa de Nathan, il n'est pas là. Il habite aux États-Unis. Et du coup, même s'il peut y avoir 10 000 possibilités qui font que le papa ou la maman ne soient pas là. Et en faisant ça, si c'est ça la situation, ça, il ne s'agit pas de tromper quelques-uns. En fait, on est libre de vivre. De vivre, en fait. Alors, en fait, si on trompe quelqu'un, ça veut dire qu'on est ensemble avec quelqu'un. Mais dans ces cas particuliers, ils sont pas ensemble. Le papa, il est aux États-Unis. Il a jamais connu son fils. Du coup, il l'a pas trompé. La maman, elle n'a pas trompé son mari. Elle a juste eu une autre relation dans sa vie.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitez. Thank you. Antoine Vitez.
Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitez et nous venons voir notre troisième spectacle, Natchav. Natchav est la troisième création collective de la compagnie Les Ombres Portées. Elle a été créée en 2019.
Combien sommes-vous dans la compagnie ?
Eh bien, on est 18 dans la compagnie. Il y a des gens qui travaillent sur l'administration et la diffusion. Ça, c'est aussi toute une partie de la vie d'une compagnie, pour faire vivre une compagnie, trouver des partenaires, trouver des théâtres où on peut venir jouer, s'occuper des budgets, des fiches de paye, parce que tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Il y a 4 musiciens. Il y a plusieurs marionnettistes manipulateurs, il y a des régisseurs son, des régisseurs lumière. Il y a des gens après qui travaillent avec nous plus ponctuellement, par exemple sur les costumes, ou alors en regard extérieur quand on met en scène, en oreille extérieure aussi, pour nous donner des conseils, des avis. Il y a tout un tas de métiers qui sont liés à la création d'un spectacle.
Comment se spécialisons-nous en comédien de théâtre d'ombre ?
Alors, je ne crois pas qu'il existe une école de comédiens de théâtre d'ombre. En tout cas, nous, on ne l'a pas faite. Nous, dans la compagnie, c'est un peu surtout deux pratiques qui se sont rencontrées. D'un côté, la musique, donc des musiciens qui ont appris la musique dans des écoles, auprès de professeurs de musique. Et de l'autre côté, des gens qui avaient fait des études en dessin, en construction, en scénographie. Donc nous, c'est un peu ces deux univers-là qui se sont retrouvés, en tout cas dans la formation de l'équipe. Il y a des gens qui ont aussi d'autres parcours variés, parce qu'on est quand même 18 dans la compagnie, donc on est assez nombreux. Et sinon, il existe des écoles de marionnettes, vraiment spécialisées en marionnettes. Mais le théâtre d'ombre, c'est un petit peu différent de la marionnette, parce qu'il y a beaucoup de constructions, beaucoup de dessins, beaucoup d'objets. Et du coup, c'est pas, il n'y a pas une école spécifique à ça, ou pas encore.
Combien de temps mettons pour créer un spectacle d'ombre ?
Ça dépend tout à fait du spectacle. On peut pas répondre à cette question. On peut faire un spectacle très simple, rapidement. Des fois, on travaille avec des élèves, avec une classe. On arrive à faire un tout petit spectacle en une semaine. Donc ça dépend. Celui-ci, il est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de décors, beaucoup de marionnettes. Donc celui-là, il nous a pris 1 an et demi. Bout à bout à 10 personnes, mais en fait on pourrait aussi faire quelque chose encore plus compliqué, mettre plus de temps, et puis aussi de beaucoup plus simple et mettre moins de temps. Et si c'était plus simple, ça veut pas dire que ce serait moins bien. Tu peux faire des choses très simples qui se font vite. C'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière uniforme.
Thank you.
ça vous prend combien de temps pour dessiner, dessiner et placer les marionnettes?
Bah pour, en fait, déjà, ce qu'on commence par faire, c'est effectivement dessiner. Ensuite, une fois qu'on a dessiné, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord à quoi ressemble chaque personnage et chaque décor, on les fabrique en prototype, c'est-à-dire en brouillon. On va d'abord les découper dans du papier parce que c'est plus facile à faire, ou dans du carton. Une fois qu'on a validé, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce qu'il fait le bon mouvement, est-ce que c'est le bon personnage de la bonne scène, à ce moment-là, on refait une étape de fabrication pour fabriquer les objets définitifs. Donc il y a ces trois étapes-là. Et en tout, eh ben, il y a à peu près sur ce spectacle 300 jours de construction voilà, pour les objets. Les maquettes, ils sont fabriquées avec plusieurs matériaux. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués en définitif avec un plastique qu'on peut découper au cutter et ensuite on peut assembler. Ça nous permet que les marionnettes elles soient rigides et qu'elles soient pas trop fragiles pour le transport et pour quand on joue. Il y en a quelques-unes qui sont en bois qui est très fin et qu'on découpe à la découpe laser. Et après dans les décors. On met tous les matériaux dont on a besoin en fonction de l'effet qu'on veut. Donc il y a des tiges de métal, il y a du bois, il y a du tissu, il y a du plastique. Voilà, il y a plein de matériaux différents.
Les mobiles sont mécanisés ou manuels ?
Toutes les marionnettes elles bougent manuellement. C'est nous qui le faisons bouger. Il n'y a aucun moteur. C'est vraiment nous qui actionnons toutes les marionnettes par des petits fils, par des petits aimants qui sont cachés ici ou là, qui nous permettent de bouger certaines marionnettes. Parfois avec des systèmes que vous allez voir, notamment dans le cauchemar, quand il y a les oiseaux, vous voyez les grandes tiges qui nous permettent de tenir les oiseaux, parce que faire voler des oiseaux sans que ça se voit, c'est pas facile. Mais tout est fait manuellement. C'est nous qui faisons les choses en direct. Ouais.
Comment se font les changements de décor ?
Alors en fait, il y a des changements de décor qui se font à vue, c'est-à-dire au plateau, mais la plupart, ils se font dans les coulisses, donc derrière les rideaux, les pendrillons. On a des étagères, et sur ces étagères, on a différents plateaux, et parfois, on ramène notre chariot à roulettes, qu'on appelle un module, et dessus, on vient prendre un plateau qui est sur une étagère, et on vient échanger. Et sinon, parfois, on ne change que certains éléments d'un décor. On ne change pas tout le plateau, mais par exemple, on a un cache qui est une forme de maison. Et derrière ce cache, il y a une scène qui est cachée. Et donc, on enlève la maison et on voit les personnages qui étaient derrière.
Le théâtre d'ombre traditionnel, donc tel qu'on peut le trouver en Asie, il le faisait à la bougie. Et voilà, on peut toujours faire du théâtre d'ombre à la bougie. Là, c'est un peu compliqué dans des théâtres comme ça, mais ça fait une autre lumière qui est très jolie.
On m'a dit que dans quelques temps, les lumières seront remplacées par des lumières à LED. Qu'est-ce que ça changera dans votre métier ?
Eh bien, nous sommes peut-être un peu précurseurs parce que nous n'utilisons que des LED. Non, je rigole, mais concrètement, nous, en tout cas, le théâtre d'ombre qu'on fait, c'est avec des LED. Parce que les LED, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a un point positif pour nous dans ces lumières-là, c'est qu'on peut trouver des lampes qui ont une lentille très très petite et ça nous permet de faire des ombres très nettes. Parce que c'est ce qu'on cherche, nous, dans les images qu'on crée. On pourrait faire du théâtre d'ombre avec des images beaucoup plus floues. Ce serait un autre... C'est tout à fait possible. Mais nous, en tout cas, on cherche à faire quelque chose qui est le plus net possible et que l'image que vous voyez, elle soit vraiment compréhensible partout. L'intérêt des LED aussi pour nous, c'est qu'il en existe une multitude très différente. Il y en a qui vont avoir des couleurs assez chaudes, qu'on utilise par exemple nous dans les scènes de journée, ou des couleurs très froides, celles qu'on a pu utiliser dans les scènes d'intérieur de la prison. Je ne sais pas si vous avez senti les différences. Il y a des lumières aussi qu'on vient teinter, on vient rajouter une gélatine, c'est une feuille colorée bleue par exemple, pour donner une sensation un peu de nuit. Et puis il y a des lumières qui sont, même parmi les LED, plus ou moins nettes, un premier plan un peu flou, ça peut faire des effets qu'on recherche et qu'on essaye. Donc nous, dans le spectacle, on a en tout une quarantaine de lampes différentes et on doit avoir 5 ou 6 LED différentes parce que ça ne va pas être la même texture à la fin.
Avez-vous déjà eu des problèmes techniques ?
Eh bien oui, on a déjà eu des problèmes techniques en cours de représentation. Déjà parce qu'il y a une technique qu'on utilise dans notre spectacle qui est la lumière et qui est parfois capricieuse. La batterie n'est pas assez chargée, la batterie ne marche pas bien, ou il y a un fil électrique qui s'est débranché, qui s'est dessoudé. Donc ça peut arriver qu'on ait des problèmes techniques liés à la lumière. Tout d'un coup, une lumière ne marche pas. Ou un problème technique lié à une marionnette. Nous, quand on est sur le plateau, parfois... sans faire exprès, il y a une marionnette qui tombe, donc elle peut se casser, ou alors il peut y avoir une marionnette qui n'a pas été placée, misée au bon endroit au début du spectacle, et donc on ne la trouve pas, donc on a des soucis comme ça techniques, et ça nous demande d'improviser, de savoir réagir. Par exemple, si on a un problème de lumière, on a des petites lampes de secours cachées dans les décors, comme ça, s'il y en a une qui ne marche pas, on va en chercher une autre, et hop, on peut enchaîner. Et les marionnettes, si elles sont cassées ou abîmées, on cherche un autre enchaînement de plans, de scènes, on improvise.
De l'idée du cirque est venu le thème plus général de la liberté. Parce que les gens du cirque, ils nous donnent une image de personnes libres dans les endroits où ils choisissent d'aller, dans ce qu'ils font, dans la prise de risque qu'ils font, dans leur numéro, etc. Et par opposition à ce monde de la liberté, il y avait l'idée en face du monde carcéral, de la prison, pour marquer un contraste entre la liberté et la non-liberté qu'est la prison. Des gens du voyage qui avaient de moins en moins leur place, qui pouvaient aller de moins en moins là où ils voulaient. Les cirques qui avaient de plus en plus de difficultés à s'installer dans les centres-villes, qui étaient de plus en plus relégués en périphérie, qui avaient du mal à exercer leur métier. Et du coup, le spectacle, on va parler de ça à cause de ça.
Pourquoi avez-vous décidé de ne pas mettre de dialogue ?
On a décidé de ne pas mettre de dialogue. Ben c'est un peu un des principes de notre compagnie. On fait du théâtre sans parole. Et tout au départ, on s'est dit qu'on voulait faire ça parce que ça nous permettait de nous adresser à tout le monde, y compris à des gens qui ne parlent pas français. Donc nous, ça nous permet de voyager, mais ça permet aussi des fois, par exemple, il y a des enfants sourds qui viennent et qui comprennent le spectacle. Et on s'est rendu compte que c'était possible de raconter une histoire sans parole. Et ce qui est assez agréable aussi, c'est que donc, ça fait une histoire qui est un petit peu ouverte. Vous pouvez imaginer des choses. Et on essaye quand même de donner des intentions. Par exemple, là, il y a un dialogue entre le policier et la circassienne au début, quand le policier dit de partir. Et normalement, vous arrivez quand même à comprendre, parce qu'il y a le ton de la voix qu'on arrive à rendre par des instruments. Il y a d'autres indices, comme les pancartes, où il y a écrit... qui doivent partir du centre-ville. Et donc, voilà, c'est possible de faire une histoire sans parole, mais c'est sûr que ça contraint, on pourrait pas... Il y a des histoires qu'on pourrait pas faire. Mais nous, nos histoires, elles sont adaptées au fait qu'il n'y ait pas de dialogue, mais qu'il y ait de la musique et des images précises et des fois de l'écriture.
On l'a pas dit assez fort.
Ah, c'est Fred.
Oui. Là,
bravo. Fred, et moi je suis éclairagiste. Donc c'est moi qui crée les éclairages dans les spectacles. Et d'habitude je suis pas du tout sur scène, je suis en régie là-bas au-dessus. Et pour une fois dans ce spectacle-ci, non mais je suis pas là, hein, je suis ici.
Non mais la régie c'est là, ça s'appelle une régie. Et c'est là où on fait le son, on fait la lumière d'habitude quoi.
Et donc voilà, c'est la première fois dans ce spectacle que je viens sur le plateau avec la danseuse. Donc c'est, voilà, c'est pas simple. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Et je m'habitue.
C'était un gros défi, on va dire.
Oui, voilà. Voilà.
Moi, je m'appelle Caroline, et ben voilà, je suis chorégraphe et danseuse. Qui fait la voix ? Alors, on a construit tout un univers sonore. Il n'y a pas de musiciens ni de musiciennes sur la scène avec nous. Mais par contre, on a travaillé. Là, on est deux au plateau. Mais derrière ça, il y a toute une équipe. Et c'est très bien que tu nommes ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, dont Laurence Vielle, qui est poétesse et qui vient souvent ici au théâtre Antoine Vitesse parce qu'elle est partenaire du théâtre. Et elle est poétesse et c'est elle qui a travaillé, elle est venue voir les répétitions, et elle a écrit sur ce qu'elle voyait, sur la danse, sur le mouvement de la lumière. On a aussi Claire Godfarb, vous avez reconnu certains instruments peut-être dans la bande son. Donc il y a du violoncelle, il y a du piano, c'est Jean Jadin qui joue du piano, Claire qui chante et qui joue du violoncelle, Laurence, vous voyez, il y a toute une équipe derrière. Voilà. Et on a été dans un studio d'enregistrement pour enregistrer la musique et le son. Et c'est ça qui a fait la bande son.
Pourquoi l'avoir utilisé pour le nom de ce spectacle ?
En fait, ça se dit Youm. Mais on peut dire Loum. Moi, je dis Loum tout le temps. En fait, Youm veut dire lumière en catalan. Catalan, c'est une région, d'Espagne. Et en fait, l'assistante avec qui on travaille vient de là-bas. Et tout à coup, dans le travail, on a appelé ce spectacle Youm. Et on le trouvait beau parce qu'il sonnait beau aussi. Et on aime bien quand c'est un peu mystérieux et qu'on trouvait qu'il était, voilà, il était juste pour la pièce.
Dans la voix, il y a tous les mots lumière qui sont traduits en plusieurs langues et voilà.
Comment avez-vous eu l'idée de travailler sur la lumière parce que le spectacle se base sur ça, tous les jeux de lumière. Comment avez-vous eu l'idée? Oui, voilà.
Une question aussi. Bah, je vais répondre puisque c'est un peu. C'est un peu moi qui ai provoqué cette idée-là. Moi, j'aime beaucoup le travail de la matière. Toutes les matières, la matière, l'argile, le papier. Enfin, voilà, j'aime bien la matière plastique parce que je trouve qu'elle sculpte l'espace. Et en fait, la lumière, elle sculpte aussi l'espace. Tu vois, grâce à la fumée, la lumière, les rayons, les faisceaux, on a plein d'espaces qui se créent, qui se composent, qui se divisent. Et je trouvais que c'est une belle matière à travailler et en même temps, on peut pas la prendre en main, tu vois. Et donc c'était, ben voilà, j'avais envie de travailler sur cette matière qui fait bouger l'espace. Et en même temps, j'avais aussi envie qu'on voit tout ce travail qu'on ne voit pas d'habitude. Le travail d'un éclairagiste, c'est un peu le travail de l'ombre. Et on avait envie de mettre en lumière le travail, ce travail-là en fait, de tous ces métiers du théâtre qu'on ne voit pas toujours. Et du coup, j'ai proposé à Fred, puisqu'on travaille ensemble depuis longtemps, de faire ce spectacle avec moi. Et au tout début, il savait pas qu'il allait être sur scène avec moi. Il aurait peut-être pas accepté le défi, mais là, maintenant, voilà.
Lumière, l'ombre,
a fait pour faire de la lumière dans nos mains. Toi, tu as une petite idée ? Attends, c'est un truc qu'il faut dire à personne, hein, parce qu'on ne veut pas le révéler à tout le monde, quand même. Donc, c'est des faux pouces de magiciens, magiciennes et tout ça. Et il y a une petite lumière verte à l'intérieur du pouce. Et quand on appuie avec l'index, ça active la lumière. Donc, il faut... Quand on l'allume, ben, ça fait ça. Quand je la lance, j'enlève la pression et j'attrape de l'autre doigt et je repousse. Donc, il faut un peu de coordination et de pratique pour arriver à lancer la lumière et la rattraper. Mais oui, c'est des petits trucs.
Est-ce que c'est en haut où on fait la lumière ou alors c'est avec le téléphone ?
Alors moi, je fais la lumière avec mon petit iPod ici. Et en régie, il y a Miko qui, elle, renvoie tout le son, la musique et les voix de Laurence. Et moi, je fais la lumière. Donc ma régie lumière, elle est derrière le fond noir, derrière le rideau noir. Il y a un ordinateur, il y a des machines pour régler la lumière. Et ça, c'est juste la télécommande. Donc je donne juste des go.
C'est comme une télécommande, en fait. Donc, ce n'est pas une application qu'on met pour commencer à faire la lumière. C'est tout un travail derrière pour arriver à pouvoir gérer et diriger la lumière d'un tout petit appareil comme celui-là.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la lumière sur le plateau ?
Je ne pense pas en avoir déjà eu vraiment.
De problèmes, de gros problèmes, non. Parfois, des petits problèmes. Par exemple, tu vois le petit pouce ? Un jour, je fais comme ça et le pouce est parti. C'est très très drôle. Et je suis sortie. Et heureusement, je l'ai retrouvé. Et depuis, on en met un sur le côté pour. Bah voilà, tu vois, c'est des petites choses. Une lampe qui ne s'allume pas quand on en a besoin ou qui n'est pas au bon endroit. Mais vraiment, un gros problème de projecteur et tout ça. On n'a pas encore eu touchons du bois parce que ce serait quand même très embêtant.
Hein. Oui, notre grosse frayeur, c'est que la découpe sur le pied, là, la lampe saute en spectacle. Et alors, si elle ne s'allume plus, on est un peu coincé.
Voilà.
Mais on a tout prévu. On a une ampoule de rechange en régie, avec un tournevis, des gants pour pouvoir prendre la lampe qui est bouillante. Et donc, on pourrait le faire en spectacle. On pourrait rallumer la salle et changer la lampe en direct.
Ça ferait partie du spectacle, voilà.
On ne doit pas le faire, parce que ça va être un peu plus.
Qu'est-ce qui a été le plus dur, qui vous a mis le plus de temps à réaliser dans cette pièce ?
On avait beaucoup de matière pendant le travail. On a rassemblé beaucoup de choses. Et ce qui était difficile, c'est de choisir ce qu'on allait mettre sur le plateau, ce qu'on allait garder, comment les mettre, dans l'ordre, dans quel ordre, pour qu'il y ait quand même un fil conducteur.
Vous avez mis combien de temps à réaliser cette pièce de théâtre ?
Environ 2 ans de travail, mais pas tout le temps. Tu vois, c'est sur les 2 ans, à partir du moment où on a l'idée du spectacle, on réunit l'équipe et on commence à travailler, on écrit un dossier. Enfin voilà, tout ça, ça prend environ 2 ans.
Très étalé dans le temps.
Mais très étalé. Donc des périodes où on travaille 2 semaines, puis de nouveau. Enfin voilà. Mais c'est un processus qui dure quand même assez longtemps. Et c'est souvent 2 années de travail. Puis avec celui-ci, on n'a pas eu de chance, on l'a créé, on est tombé en plein moment du Covid, tu vois. Donc on a dû arrêter tout. Et on l'a repris plusieurs mois après. Voilà. Donc ça a mis vraiment du temps à arriver, quoi.
Je crois que la Terre respire. Regarde, nous sommes ses invités. Elle nous donne un festin. Il ne faut pas salir la nappe. La terre respire. Et moi, je déplace des montagnes.
Ooh.
Sur 89.4 et c'est toujours l'heure de Radio Cartable, mais en attendant de lancer Bibliomanie, ce sera une rediffusion avec comme invité René Frény. Je vous propose d'écouter Berceuse pour Augustin de Nathalie Solens.
Augustin, faisons des ronds dans l'Augustin. Tu verras par la fenêtre verte des oiseaux s'envoler, des nuages apparaître. Il y a tant de choses, tant de gens sur la jambe, c'est ta des tontons, des grands-mères, des grands-mères, des grands-pères,
ta maman et ton papa.
En voiture, en avion, en fusée, en avion, en fusée, à partout, mais d'abord dans les bras
de maman, de ton papa.
Oh, 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 Augustin, faisons des ronds dans l'Augustin. Il y aura toujours des mystères, toujours des énigmes à trouver, c'est nous tous et aussi
pour ta maman, pour ton papa.
Oh, 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 Augustin, faisons des ronds dans l'eau. Oh, oh, Augustin, et reposons-nous pour demain.
Pour demain.
Tu verras par la fenêtre verte des oiseaux s'envoler, des nuages apparaître. Il y a tant de choses, tant de gens sur la jambe, sur la table, des tontons, des grands-mères, des grands-pères, des grands-pères,
et ta maman et ton papa.
Thank you.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Il s'agit d'une émission préenregistrée dont le montage a été assuré par l'ami Xavier Lecomte, que je salue bien et remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à René Frény, un écrivain bien connu des auditeurs de Radio Libertaire. René Frény vient en effet de publier un nouveau roman, Minuit dans la ville des songes, aux éditions Gallimard. Bien plus qu'un roman autobiographique, il s'agit là d'un roman d'apprentissage, d'un lecteur de grand chemin et d'un passager de la vie qui a notamment animé de nombreux ateliers d'écriture en milieu carcéral. Mais je vous laisse de ce pas écouter cet humaniste aux semelles de vin. Toute première question, votre livre s'intitule, dans le livre, on va discuter de votre livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard, Minuit dans la ville des songes. C'est un très très beau titre, alors je dois dire c'est un roman autobiographique, hein, imprégné de votre vie. Ça rappelle un peu ce titre, le titre, votre précédent ouvrage, je crois, Dernier arrêt avant l'automne, Minuit dans la ville des songes. Pourquoi ce titre qui est d'ailleurs très beau, Minuit, c'est vrai que dans les contes de fées, on est, minuit, voilà, on passe dans une autre dimension. Est-ce que c'était pour marquer un peu votre passage dans la fiction, dans le rêve, dans la lecture?
Ben, c'est tout simplement parce que j'écris de plus en plus entre minuit et 2h du matin. J'ai une insomnie. Ah. Je me réveille, mais je ne me lève pas. Je reste dans le noir, je reste dans ma chambre, dans mon lit, et j'écris sous mes paupières. C'est comme quand on fait un métier avec passion. Je pense qu'un professeur qui fait avec passion son métier, il en rêve la nuit. Il rêve de ses cours la nuit. Et quand on est un bon pâtissier, on doit rêver de crème au beurre ou de pain au chocolat pour les améliorer. Moi, je rêve de mon métier, c'est-à-dire j'écris sous mes paupières. Aussi parce que j'ai de plus en plus peur de mon cahier, c'est une responsabilité. Quand je vois les bibliothèques et tous ces chefs-d'œuvre qui s'accumulent, de Dostoïevski à Faulkner, en passant par Giono, Genet, je me dis, qu'est-ce que tu vas rajouter à cette pyramide? Et donc, j'ai un peu peur le matin quand je me réveille de mon cahier, parce qu'il m'attend. Et il m'oblige presque à écrire. Alors que la nuit, dans ce flottement entre chair et loup, entre deux os, je dis presque dans les subconscients, entre la conscience et l'inconscient, les mots viennent sans peur, facilement. J'écris sous mes paupières, et quand je me réveille le lendemain matin, je recopie sur mon cahier ce qu'il y a écrit sous mes paupières.
Et c'est vrai, cette notion de songe, hein, de rêve est très importante. Alors il y a une phrase en exergue de votre ouvrage, René Frény, c'est une phrase de Marguerite Yourcenar: je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils vivent, je n'aime pas comme ils aiment, je mourrai comme ils meurent. Est-ce qu'on peut dire que votre roman est aussi un roman d'apprentissage, un chemin d'une singularité vers une forme d'universalité, c'est-à-dire vous passez du plus marginal, du plus singulier, du plus indomptable vers l'universalité, vers la littérature, en fait. On passe de l'unicité vers le multiple.
Je ne pourrais pas le dire mieux, vous l'avez dit tellement bien. Quand on écrit, on est tellement concentré. Quand je veux raconter un arbre, il faut que je devienne un arbre, c'est-à-dire que je sente dans mes mains la peau rugueuse de l'arbre. Si je veux devenir un chat, il faut que je me mette à quatre pattes et que je miaule, ou un rat. Si je veux attraper la grâce d'une femme, je marche en